Le masque et la plume. Il y a les prix décernés par les jurys, les académies ou les critiques. Et depuis 35 ans maintenant, le prix du masque et la plume, c'est le vôtre, celui du public, des auditrices et auditeurs de cette émission. Depuis mi-novembre et jusque mi-février, nous avons dépouillé plus d'un millier de mails et de lettres pour connaître vos lauréats du meilleur film français et du meilleur film étranger de l'année écoulée. Ces deux films sont arrivés très largement en tête. Pour le film français, il s'agit d'Emilia Pérez de Jacques Audiard, drame musical sur la transition de genre d'un narcotrafiquant mexicain. Et pour le film étranger, vous avez élu Les graines du figuier sauvage de Mohammad Razoulov, récit de la révolution iranienne à travers un huis clos familial. Ce masque et la plume est donc un épisode très spécial à double titre, parce que c'est vous qui décidez du programme et parce que les deux cinéastes seront avec nous sur scène pendant toute l'émission. Pour bénéficier de leur présence au milieu du tourbillon qu'ils vivent depuis la présentation de leur film à Cannes, je précise que nous enregistrons cette émission le jeudi 27 février, donc avant les cérémonies des Césars et des Oscars. Pour mener la conversation avec Jacques Audiard et Mohammad Razoulov, il y a vous, public du Théâtre de l'Alliance Française, qui pourra échanger avec les deux cinéastes en fin d'émission. Et j'ai le plaisir d'accueillir trois critiques du masque, Jean-Marc Lalanne des Inrecuptibles, Ariane Allard du magazine Positif et Nicolas Chalère du Nouvel Obs. Bonjour et bienvenue pour cette 35e édition du Prix du Masque. Et pour commencer, merci d'accueillir les deux lauréats, Jacques Audiard et Mohammad Razoulov, accompagnés de sa traductrice Massoumé Laïdji. Entrez. Bonjour à tous les deux, Jacques Audiard.
Bonjour.
Et Mohammad Razoulov, et bravo.
Merci.
Pour ce prix des auditrices et auditeurs de cette émission. Vous vous connaissez tous les deux, je crois. Vous avez déjà eu l'occasion d'échanger.
On se croise pas mal dans le Barnum des festivals. Il y a une conversation que je dois poursuivre avec Mohammad.
C'est l'occasion jamais.
Voilà. Vous allez voir, je vais être très ennuyeux.
Quelle promesse! Alors, ces films vous ont valu beaucoup de récompenses à travers le monde. Ils dépassent largement le cadre du cinéma par leurs propos politiques, par les débats qu'ils ont provoqués. Comment ces films-là vous ont changé l'un et l'autre, Mohammad Razoulov? Comment ils ont changé votre vie et peut-être comment ils vous ont changé en tant qu'homme?
خیلی خوشحالم که اینجا هستم و
دبورت ریزور دترلا
خیلی برام لحظه لذت بخشیه در کنار آقای
اودیار پارتیکولارمون راوی دترلا او کوته د ژاک اودیار
سه سوز الهام بخش و
من سیت ان سینئاست تریز انسپیرانت پور موا
یادی گرفتم
کی ماکمپانی د لونگ دات
سینما میتونه یک هنری برای تفکر باشه به
نظر. Le cinéma peut être pour moi une forme artistique qui est source de réflexion avant tout.
کنار نقش سرگرم کننده.
Il y a certes la fonction de divertissement.
ما رو به دنیایی از سوال‌ها ببره،
فکر می‌کنم هر کسی که درباره هستی پرسش داره میتونه monde de
این راهو برای گفتن سوال‌ها.
Du moment que l'on se pose des questions existentielles, il me semble que c'est un bon moyen de partager ces réflexions, ces interrogations.
Et pour vous, Jacques Audiard, c'est
à tenter de dire exactement la même chose que Mohammad. Le monde nous pose des questions. Alors, c'est une espèce de gros magma, comme ça. Et puis, à un moment donné, les choses vont se préciser. Et puis, on va essayer d'élaborer, effectivement, de donner des formes à ces questions-là. Je ne suis pas sûr des réponses, mais comment la formulation des questions est importante. Ce que fait le cinéma de Mohammad, par exemple, c'est évident. Ça m'informe, ça me pose des questions sur un lieu du monde que j'ignore. Je me suis mis à penser, à un moment donné, que certaines questions... On pouvait toujours les prendre frontalement, on pouvait, sous forme journalistique, cinématographique, ce que vous voulez. Mais tout à coup, j'ai senti que la musique et le chant pouvaient apporter quelque chose vraiment de beaucoup plus direct, simplificateur, mais beaucoup plus direct. Parce que simplificateur.
Et alors, est-ce que Emilia Pérez, c'était ma question de départ, vous a changé, vous, toute cette aventure avec toutes les
vous savez, c'est
positives et négatives, d'ailleurs
est-ce Oui, que c'est, ça a été clivant, comme on dit. C'est très difficile de dire aujourd'hui, alors que je suis encore collé un peu sur le motif, de dire en quoi ça m'a changé. Mais je sais que j'ai appris beaucoup de choses. Mais changer, je ne peux pas vous le dire encore, je ne le sais pas.
Est-ce que ça a changé votre rapport à la critique, par exemple ? Est-ce que l'aventure d'Emilia Pérez et les débats que le film a provoqués ouais. au Mexique ou pendant la campagne des Oscars, est-ce que ça va changer votre rapport
Alors,
à la critique ?
Alors, je vois deux questions dans votre question. Il y aurait comment le débat médiatique, qui est une chose dont j'observe aujourd'hui vraiment la différence. Quand j'étais aux Oscars pour Un prophète, en film étranger, c'était les bisounours à l'époque. Il n'y avait pas, comment, il n'y avait pas les réseaux. Aujourd'hui, c'est extravagant. Et vous êtes très souvent confrontés, alors je pense pas des critiques, à des gens qui parlent d'un film qu'ils n'ont pas vu. Ce qui est très, très singulier. Alors moi, j'ai un très grand, je ne peux pas dire ça parce que j'ai des critiques en face de moi, on peut me traiter de faillot. Moi, d'une certaine façon, j'ai fait du cinéma parce qu'il y avait de la critique. Oui, vous avez l'air étonné, mais vous savez, je savais lire à l'époque.
Non, mon sourcil était...
Cinéma, j'ai appris à lire.
Vous encouragez à poursuivre.
La critique m'a appris à regarder les films.
D'accord.
Et il y a des films que j'ai vus, mais bien sûr, parce que comment il y avait une incitation critique et qu'il y avait des développements dessus.
Vous, Mohamad Rossouloff, vous êtes le lauréat aussi du syndicat de la critique de français du cinéma. Quel rapport vous entretenez avec la critique ? Qu'est-ce que représente ce prix-là de la critique parmi tous ceux que vous avez reçus pour Les Graines du Figuier Sauvage ?
Pour
moi, c'est vraiment une question assez complexe parce que les critères esthétiques d'un système totalitaire vous entrent, vous faire entrer dans un cadre, un carcan idéologique dont il est assez difficile de se débarrasser. Quand on se défait de cette esthétique totalitaire, on est confronté à de nouveaux défis, à de nouveaux conflits. Donc, je suis plutôt touchée par des critiques, des commentaires qui me viennent sans préjugés. Mais en réalité, quand j'étais en train de concevoir ce film, de me demander à quoi il allait ressembler, je me posais la question du rapport au genre. Et je me suis dit que j'allais me faire taper sur les doigts par les critiques précisément en raison de cette navigation entre les genres. Et je me suis dit, de toute façon, ce film, je ne vais jamais le terminer. Il n'a aucune chance de se faire. Donc, je n'avais qu'à vivre comme je le souhaitais, mon histoire d'amour avec le cinéma. Et que finalement, si je pouvais me coltiner la censure de l'État, je pouvais aussi me confronter à la critique. Et donc, si finalement, je reçois aujourd'hui ce prix-là, ça me dit que j'ai eu raison de suivre mon cœur.
De naviguer entre les genres, c'était aussi l'ambition formelle de départ d'Emilia Pérez, telle que vous l'avez pensée, Jacques Audiard.
Oui, je pense. Je pense qu'il fallait effectivement que le personnage changeait, le film devait changer avec le personnage. Voilà. Et c'est la première fois que je tournais entièrement au studio et que le studio m'invitait en fait à ça.
Nicolas.
C'est intéressant cette question du genre que vous abordez tous les deux, même si vos films sont très très différents et ne racontent pas du tout la même chose, mais cette approche du mélange des genres avec des risques, c'est-à-dire des risques qui pour Monsieur Rossouloff sont ceux de comment faire un film dans un pays et un régime qui vous en empêche et qui est le risque de même de mettre votre vie en danger. Et vous, Monsieur Audiard, un risque différent, mais qui est un risque de la crédibilité et de la suspension de la crédulité du spectateur, moi qui est une notion que je trouve assez intéressante dans votre film parce que vous jouez toujours avec et vous jouez avec la croyance du spectateur. Est-ce qu'à un moment, l'un comme l'autre, pour des raisons différentes, il y a eu un moment de vous nous avez dit « je n'arriverai pas au bout » ?
Pour moi,
Emilia Pérez a été, en tant que spectateur, une expérience fascinante. J'ai invité l'équipe de mon film à aller voir ce film avec moi. Et j'ai été soufflé de la fraîcheur de l'esprit de Jacques Audiard, de son courage, de son audace, de quelqu'un qui assume à ce point ses besoins artistiques, ses désirs propres.
Et
il me semble que l'intérêt au cinéma, c'est précisément d'aller à la découverte de ce qu'il ne sait pas. Répéter ce que l'on sait déjà n'a plus d'intérêt pour nous, genre de cinéma. Donc, Emilia Pérez, pour moi, c'est un film qui me rend heureux, qui me fait faire un voyage et qui me fait réfléchir très profondément sur l'identité. C'est un film qui s'éloigne du réel. Et pourtant, dans notre réalité, on a été confronté sans cesse aux questions que pose ce film. Ce film qui s'éloigne du réel et pourtant il nous fait réfléchir au réel. Et ce jeu-là, entre le réel et l'imaginaire, m'a personnellement complètement transporté.
Jacques Audiard.
Moi, il n'était pas question que j'aille pas au bout. De toute façon, je savais pertinemment. Et que alors oui, le changement de genre, c'était que le film ne soit pas réaliste. Voilà. Qu'il abandonne toutes ces... J'ai beaucoup repéré au Mexique, hein, j'ai beaucoup travaillé là-bas et je sentais que le réel me collait au sol, que c'était pas ça, le film avait besoin de beaucoup plus de forme. Il devait interroger tout le temps la position du spectateur, tout le temps. Et ne serait-ce que pour les sujets abordés, j'ai aucune prétention à documenter quelque chose, mais c'était trouver la forme, et je pense que seule, que la forme chantée, la forme lyrique avait sa place là-dedans, vraiment.
Alors l'un et l'autre, vous êtes arrivés en tête des votes des auditeurs, mais j'aimerais donner la liste des films, des 10 films qui ont eu les faveurs du public du masque concernant les films français. Donc à la 10e place figure Borgo de Stéphane de Moustier, à la 9e c'est Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre de la Patellière et Mathieu Delaporte, arrive ensuite La plus précieuse des marchandises de Michel Hazanavicius, puis Le Royaume, premier film de Julien Colonna, Enfant phare d'Emmanuel Courcol, Les Fantômes, premier long métrage de Jonathan Millet, et le roman de Jim d'Arnaud et Jean-Marie Larieux arrive en 4e place. Et là, Jacques Audiard, vous dites, oh, j'ai rien eu le temps de voir.
C'est une catastrophe, je n'ai rien vu et ça vous fait rire. Et non, c'est une catastrophe. Il faut que je me rattrape absolument parce qu'il y a des films que, ne serait-ce que Larieux, qu'il faut absolument que je voie.
Et à la 3e place, il faut aussi que vous voyez Miséricorde d'Alain Guiraudy avec Félix Kizil, Catherine Fraud, Jean-Baptiste Durand. Alors, c'est l'arrivée d'un jeune homme dans un village où il a vécu et son retour va éveiller, va faire circuler des désirs. Et comme nous l'écrivait un auditeur, dans Miséricorde, il y a un bois sans loup ni chaperon rouge, mais avec des garçons qui cueillent des champignons sous le regard d'un prêtre rôdeur. Alors, un rapide tour de table entre les trois critiques du masque présents ce soir. Jean-Marc, pour Miséricorde.
Moi, ça me réjouit absolument. Je suis fan de la première heure du cinéma d'Alain Guiraudy. Et je suis content de voir que ce cinéma connaît une sorte d'apothéose publique, puisque c'est très nettement son plus grand succès public. Non seulement c'est un film qui a réuni un nombre conséquent de spectateurs, mais qui, en plus, touche profondément les gens. On voit bien cette excellente place qu'il a obtenue. Je pense que si le film touche plus largement que d'habitude, c'est parce que le scénario est extrêmement bien construit, alors que moi j'aimais beaucoup aussi les films un peu anarchiques dans leur construction de Guiraudy. Là, il y a vraiment une rigueur, c'est un vrai suspense policier, et en même temps, il ne cède en rien sur cet art de montrer toute la complexité des désirs humains, cet art de la surprise qui fait tout le sel du cinéma de Guiraudy.
Ariane ?
Oui, alors moi je suis un tout petit peu moins enthousiaste que Jean-Marc, mais en tout cas je trouve qu'il y a quelque chose de fort dans ce film, c'est qu'on retrouve son univers, quoi qu'il en soit. C'est un univers qui est très original dans le cinéma français. C'est un univers qui oscille entre la farce macabre et le conte, et un conte assez cruel, et j'aime beaucoup le fait qu'on reste quand même toujours dans quelque chose d'imprévisible. Après, moi j'ai trouvé que par rapport à d'autres films, enfin bon, L'Inconnu du Lac ou même Rester Vertical, je trouve que là, il prend un peu son temps et un peu trop, et il y a un moment donné où moi, mon désir, puisque ça parle effectivement beaucoup de désir, ce film, mon désir s'éteint un tout petit peu.
Nicolas.
Non, moi je suis assez ravi. J'ai dû le revoir une deuxième fois pour l'apprécier. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la joyeuse amoralité du film et son côté paillard, mais qui, du coup, tristement paillard. Il y a un mélange d'humeur qui est assez réjouissant. Et moi, j'aime bien cette manière de Guy Roddy d'aller créer, d'inventer des mythologies très personnelles dans la campagne française en déshérence. Là, en l'occurrence, c'est l'Ardèche, si je dis pas de bêtises. Et c'est très burlesque en fait. Il invente une nouvelle forme de burlesque campagnard. Tout ça pour raconter quand même, finalement, des choses très amorales et qui est en fait un pur film d'amour chrétien, je vous laisse découvrir.
Enfin,
pourquoi.
Chrétien, il y a un prêtre.
Oui, mais on pardonne l'impardonnable, c'est beau.
En deuxième position, vous avez élu l'histoire de Souleymane de Boris Lochkine, 48 heures de la vie d'un jeune Guinéen à Paris qui se prépare à passer un entretien dans l'espoir d'obtenir le droit d'asile. Et le scénario s'inspire du vécu d'Abou Sangaré, son interprète principal. Nouveau tour de table rapide pour ce film, Ariane.
C'est un film qui est à la fois haletant, puisqu'on suit effectivement au plus près, caméra portée, le quotidien éprouvant et épouvantable de ce coursier. Et en même temps, c'est un film bouleversant. Moi, je l'ai vraiment vécu comme une espèce de long sanglot différé, puisqu'il a à peine le temps de respirer. Il est tellement tout le temps dans la contrainte. Et la dernière scène, je peux en parler, puisque le film maintenant est sorti un petit peu, qu'il y a quand même beaucoup de gens qui l'ont vu, parce que lui aussi, c'est un film qui a été beaucoup vu. Et la dernière scène, c'est le moment où enfin, ce personnage peut enfin donner sa vérité, alors qu'il est tout le temps aussi dans le mensonge et dans la dissimulation, mais bien obligé. Et je pense que si ce film a autant marché, et c'est bien sûr par sa construction, par ce côté effectivement haletant et captivant, mais aussi
et par son interprète.
Et voilà, son interprète qui est extraordinaire, et par le fait que je pense qu'on n'a jamais encore montré de façon aussi quotidienne et aussi humaine ce que c'était précisément que la vie d'un migrant aujourd'hui en France.
Nicolas.
Oui, je suis d'accord. Il y a un côté voleur de bicyclette de notre époque ubérisée, mais après les Dardennes, on se dit bon, on a déjà, ça reprend une esthétique qu'on connaît, mais il mise sur la carte du thriller très électrique et pas, il y a pas que le vélo qui est électrique dans l'histoire, il y a le film qui l'est et porté vraiment, je trouve, par le comédien qui vivait la même chose au moment où il tournait le film, ce qui donne une double lecture.
Je redis son nom, Abou Sangaré,
qui permet au film de dépasser le programme un peu attendu. Et qui lui donne une vérité vraiment absolument bouleversante, et avec une fin ambiguë qui aurait pu être très casse-gueule et qui devient encore plus forte et déchirante. Quoi.
Jean-Marc.
Oui, je suis d'accord avec tout. Le film est très émouvant. Abou Sangaré est vraiment extraordinaire parce que c'est pas simplement un personnage ni une personne, il réussit à incarner un type humain universel. C'est vraiment l'homme opprimé en lutte contre le bannissement social, et j'ai presque pensé à Chaplin sur l'universalité de ce qu'il porte, et c'est vraiment très très bouleversant, c'est un film extrêmement réussi.
Pour votre part, à quel moment vous avez la sensation d'avoir un projet de film, Jacques Audiard?
Quand je ne pense plus qu'à ça.
Quand ça devient une obsession.
Oui, c'est ça, exactement. C'est pas un sujet, c'est une forme qui m'apparaît.
Donc, pour ce qui concerne Emilia Pérez.
Emilia, c'était l'opéra.
Et alors, pourquoi l'histoire d'un narcotrafiquant qui veut changer de genre a inspiré un opéra, un livret d'opéra, plutôt qu'un scénario?
Je crois que j'avais assez spontanément besoin d'élever la chose, de la chanter, que ça devienne une mélodie, que ça devienne un chant. Voilà. À certains moments, je pense que comment les sujets sont trop réels, trop réalistes, trop, voilà, c'est pas, moi, je crois qu'il fallait donner tout à coup effectivement une voix, un chant à cette chose-là, comme une épopée.
Et alors, qu'est-ce qu'une chanson, qu'est-ce qu'un chant apporte de plus qu'un dialogue pour vous?
C'est d'une part, ça va beaucoup plus vite. Qu'en fait, une chanson, c'est un mode de communication qui est très très rapide. On quitte le champ du réalisme, du dialogue parlé, de cette chose-là. Mais en fait, d'une certaine façon, je crois que ça me pendait un peu au nez. Parce que comment se fait-il que je fasse des films dans des langues que je ne parle pas, que je ne comprends pas? C'est quand même. Et c'est donc, je crois que c'est ce rapport à la musicalité de la chose.
Jean-Marc.
Est-ce que vous êtes posé justement la question de faire un film entièrement chanté? Ou est-ce que tout le temps vous avez eu envie de cette alternance entre le dialogue parlé et le dialogue chanté?
C'est resté longtemps sous forme d'opéra. Puis c'est après, avec une discussion avec Clément Ducol, avec le musicien, tout à coup, il dit, non, ça sera du cinéma, ok, d'accord. Se posait alors la question de même pour la chorégraphie de Jallet, se posait la question des entre-deux, de est-ce qu'il y a un entre-deux, entre le parler et le chanter? Alors, dans l'opéra, il y a le parler-chanter, le sprechgesang. Et ça, c'était très intéressant de trouver les parties qu'il y ait des parties mi-chantées, mi-parlées. Et pareil pour la danse, mais j'ai pas pu aller beaucoup. Je voulais des épisodes dont on ne sait pas si c'était chorégraphié ou pas.
Ariane.
Moi, j'y ai vu aussi l'idée de la transition, puisqu'en fait, on passe sans arrêt du parler au chanter, parler au danser. Est-ce qu'effectivement, il y avait aussi cette idée-là en vous, puisque vous parlez aussi d'un personnage qui va effectuer une transition?
Oui, bien sûr. Voilà. Oui, c'était de trouver la forme de ce process, voilà, mais avec probablement ce danger d'être peut-être caricatural, d'être lourd. D'être un petit peu lourd. Alors, moi, je passe beaucoup de temps, je me souviens sur des films précédents, de dire, ah non, je peux pas faire ça, je peux pas aller jusque là, ou des trucs comme ça. Et que là, il y avait presque une obligation d'assumer quelque chose à la limite du mauvais goût, à la limite du, oui, c'est ça, de la très grande naïveté du personnage, voilà.
Vous avez parlé tout à l'heure du fait d'avoir tourné en studio. Il y avait eu des repérages au Mexique et finalement tous ces tournées en France en studio. Tourner en studio, ça veut dire que le film prend toute la place. C'est-à-dire que quand on tourne dans la rue, il peut y avoir des imprévus. Oui. Cette maîtrise totale-là, que le film occupe tout, ça vous a plu ?
Ça m'a énormément plu, oui. Le film avait l'opéra dans son ADN. Comment un plateau de cinéma, c'est un plateau de théâtre. C'est la même chose. Le rapport est évident. N'existera dans l'image que ce que vous aurez amené.
Donc il y a une maîtrise totale, un contrôle total.
Oui, total. Contrôle fric.
Mohamed Rasoulov.
Ce
que j'aimerais savoir.
C'est
quel genre de situation
vous a donné cette
impulsion de créer votre propre monde,
puisque
quand moi j'ai vu ce film-là, je ne me suis pas du tout posé la question de la nationalité, de la langue, de la culture, de l'environnement. C'était un monde à part, un monde propre, y compris ce langage musical. Pour moi, c'était le signe qu'il s'agissait d'un monde irréel. C'était le monde de ce cinéaste-là qui a ses propres critères, sa propre vérité. Est-ce qu'il y a autre chose qui nous est insufflé ou est-ce que c'est vraiment comme tel qu'on est censé percevoir ?
Pour te répondre, comment cette idée d'un narco qui veut opérer une transition, elle n'est pas de moi. J'aurais jamais eu. Elle vient d'un roman de Boris Razon qui s'appelle Écoute, mais que Boris ne développe pas vraiment le personnage. Moi, j'ai voulu le développer, c'est tout. Je peux poser une question ?
Oui, bien sûr.
Tu sais, on avait fait une table ronde et tu avais dit une chose qui m'avait vraiment marqué, j'avais pris des notes. Tu avais dit que c'était ton rapport à la métaphore. Tu disais que toi, tu t'interdisais la métaphore.
آره میدونید برای اینکه وقتی که تو تحت فشار هستی و میترسی
là aussi quand on grandit sous la pression sur l'interdit de dire on ressent un besoin de libération. Et pourtant, on doit quand même faire attention à soi, à sa famille. Et donc, on transforme sa langue. On se cache derrière des symboles, des images qui ne viennent pas de votre imaginaire, mais qui viennent de votre contrainte, des contraintes avec lesquelles vous devez vous exprimer. Donc moi aussi, je me suis coulée dans ce moule-là jusqu'au jour où je me suis rendu compte que cette métaphore qui est si riche dans notre culture, dans notre langue, finalement est aussi l'instrument d'une oppression politique. Et donc j'ai décidé de rompre ce carcan-là, cette forme-là qui était la mienne dans les trois premiers films que j'ai faits, mais je me suis dit que je n'avais plus le droit de me limiter à ce carcan-là, à ce langage-là, et le dépasser. Au moment même où on parle, il y a deux cinéastes iraniens, Mariam Mohradam et Behdash Sanaei, qui depuis 2 ans sont sous pression permanente. Ils ont leur procès qui aura lieu le lendemain de la cérémonie des Oscars parce que dans leur film, Mon gâteau préféré, on voit la chevelure de l'actrice principale. Et ils doivent aller rendre des comptes. Ils ont été accusés de corruption et ils doivent aller rendre des comptes pour cela. Donc il ne s'agit plus seulement de cinéma. Vous êtes complètement emprisonné dans ces règles que l'on vous invente. Mais moi, j'avais le sentiment que je m'étais moi-même enfermée dans cette forme-là et il fallait que
métaphore égale mensonge.
Il me semble qu'à ce moment-là, dans ces conditions-là, oui.
D'ailleurs, vous évoquiez des procès contre des cinéastes iraniens, mais au début de l'année a eu lieu un procès contre l'équipe des graines du figuier sauvage. On en connaît l'issue aujourd'hui ou pas ?
Aussitôt
que la nouvelle de l'existence de ce film a fuité en Iran, il y a eu des descentes dans le, au bureau du directeur de photographie, tous les acteurs du film qui étaient encore en Iran, parce qu'il y en a d'autres qui s'étaient déjà échappés, mais ceux qui étaient restés comme les deux acteurs principaux, Misar et Soheila, qui jouent le rôle des parents, se sont fait arrêter, ont subi des interrogatoires, des pressions, et on leur a demandé de nous demander de retirer le film de la compétition à Cannes. L'ingénieur du son a vu son passeport confisqué lorsqu'il a voulu quitter le pays, ce qui est absolument incroyable. Pourquoi est-ce qu'un ingénieur du son ne peut pas quitter le pays ? Ils n'ont rien fait d'autre que participer à un film, se battre pour leur liberté artistique, rien de plus. Mais toujours dans ces conditions-là, dès que vous faites un film, ils viennent vous donner un choc en disant n'oubliez pas où vous êtes, n'oubliez pas ce que ça veut dire que de faire un film dans ce pays. Et cela fait des décennies que ça dure, que notre vie quotidienne est celle-ci. Et en effet, ce procès a eu lieu après tous ces mois où le film a vécu sa vie. Il y a eu en parallèle en Iran des problèmes autrement importants. Le président de la République est mort, il y a eu de nombreuses crises, donc ils étaient occupés à autre chose. Mais dès que le film est sorti en France, ce procès a eu lieu il y a 3 mois, donc la plupart des membres de l'équipe étaient absents et c'était Soheila, l'actrice principale, qui était présente. Et les accusations ont été là aussi, l'incitation à la débauche, propagande contre l'État. Et en fait, 3 mois après, on n'a toujours pas le verdict. Donc je ne sais pas pourquoi il tarde tant à tomber, mais moi je suis persuadée qu'ils attendent que ces cérémonies qui ont eu lieu, les Césars, les Oscars, aient lieu avant de nous donner enfin leur prix à eux.
En tout cas, vous avez déjà le prix du public du Masque et la Plume. J'aimerais vous donner la liste des 10 films étrangers qui sont arrivés en tête de vos votes, public du Masque. À la 10e position, c'est Dune 2 de Denis Villeneuve, précédé par Tatami de Zahr Amir Ebrahimi et Guy Native. Los Delincuentes de Rodrigo Moreno arrive 8e. À la 7e place, c'est Le Mal n'existe pas de Ryusuke Hamaguchi. Un film d'animation occupe la 6e place, c'est Flo. All We Imagine Is Light de Payal Kapadia, primé à Cannes, est 5e. Ça ravit Ariane et Jean-Marc. All of Us Strangers d'Andrew Hay, qui est pourtant sorti en 2023, arrive 4e, et oui. Et la 3e place revient à la Palme d'Or, à savoir Anora de Sean Baker, d'histoire d'amour impossible entre une jeune stripteaseuse de Brooklyn et le fils d'un oligarque russe. Les deux tourtereaux se marient à Los Angeles, avant que les riches parents du gamin n'embauchent une bande de pieds nickelés pour faire annuler le mariage. Nicolas ?
Moi, j'en suis assez ravi. C'est une formidable screwball comédie de l'ère Trump, puisqu'il est question de sexe tarifé, d'oligarque russe et de mépris social. voilà, c'est un faux conte de fées bien ancré dans le réel. On revient à un cinéma américain, moi, des décors, des acteurs, parfois de l'excès. Le film a été presque surestimé par la Palme d'Or, mais depuis, à cause de la Palme d'Or, il est un peu sous-estimé, je trouve, par ses détracteurs. Et je suis ravi qu'il arrive 3e de ce top.
Ariane.
Oui, moi je pense que c'est un film qui restera aussi en mémoire parce que c'est un des très rares films qui soit une comédie, là pour le coup, même si c'est une comédie teintée de mélancolie et la fin est effectivement très poignante, c'est un des très rares films qui soit une comédie qui a eu une Palme d'Or. Donc juste pour ça, je pense que ça mérite. Et aussi pour un acteur russe que moi je veux citer, qui s'appelle Yuri Borisov, qui fait un des hommes de main et qui porte un regard tellement tendre sur le personnage d'Anora que nous aussi on finit par tomber amoureux de cette jeune fille. Et je trouve cet acteur russe absolument fabuleux.
Jean-Marc.
Oui, c'est un film qui hérite vraiment d'une tradition du cinéma américain. On pense aussi bien à Scorsese qu'aux frères Coen. Mais il trouve une reformulation très contemporaine, très en prise avec l'Amérique d'aujourd'hui. Et il est aussi virtuose sur l'art des situations. Il sait vraiment délayer une scène, la faire rebondir de manière assez spectaculaire, avec une très belle mise en scène, très fluide et très spectaculaire. Et en même temps, être assez fort sur des choses très intimistes, très précises, comme ce portrait d'un personnage féminin qui va devoir renoncer à son rêve d'ascension social. Il y a quelque chose de très, très juste et très fin dans la manière d'avoir accès à l'intériorité de ce personnage.
Et enfin, en deuxième position, vous avez élu La Zone d'intérêt de Jonathan Glazer, un film où l'on suit le quotidien du commandant du camp d'Auschwitz et de sa famille, leur maison étant installée juste à côté du camp. Dernier tour de table entre vous, Ariane.
C'est un film qui, moi, me hante depuis que je l'ai vu. Je l'ai vu deux fois. Et cette façon de filmer de façon aussi méticuleuse, aussi précise, aussi même féroce, je dirais, cette maison, les personnes qui habitent, et de les filmer comme une espèce de drame bourgeois et même petit bourgeois, alors que juste à côté, ils côtoient l'horreur, mais que cette horreur est complètement déniée. Je trouve que c'est d'une force absolument ahurissante, quoi.
Jean-Marc.
Oui, c'est vraiment très fort et c'est un film qui est pas vraiment aimable. Enfin, c'est une expérience de projection assez inconfortable ou même pendant le film, je me disais mais
l'expérience de mise en scène aussi.
Bien sûr. La mise en scène est très forte, mais à un moment donné, on se demande s'il n'y a pas quelque chose dans le dispositif qui est très élaboré, très concerté, d'un peu trop verrouillé. Et pour moi, le film a totalement acquis à partir du moment où il a aussi la force de casser ce dispositif fait sur la métonymie, le plan fixe, avec des scènes incroyables comme cette scène filmée en caméra thermique, tout à coup on bascule dans l'univers du conte et on s'échappe complètement de ce qu'est le reste du film. Et donc le film est sans cesse guetté par le danger d'être un peu trop monolithique, mais il sait organiser des trouées très très fortes qui finalement le rendent assez immense.
Nicolas.
Moi, je trouve que c'est une fascinante œuvre d'art contemporain, mais après trois visions, je sais toujours pas si c'est un film réussi. J'ai l'impression de voir...
À la quatrième, tu sauras peut-être.
Non, mais j'ai l'impression de voir une sorte de Jane Dillman, le film de Chantal Akerman, mais où la mère au foyer aurait été remplacée par une famille SS, revue par Bill Viola et Johan Chaputo, qui est le spécialiste du... Parce que pour moi, c'est un film aussi sur le capitalisme, sur la construction d'une machine de destruction très méticuleuse et inhumaine et ignoble, et du confort des gens qui ont créé ça, et dont le mal a fini par gagner, parce qu'à la fin, il se passe des choses très étrange, le soldat SS se met à vomir, mais à ne rien vomir. Et il y a quelque chose comme ça sur le capitalisme d'aujourd'hui, sur notre confort même à cohabiter avec des régimes fascistes et avec la terreur à nos portes, que je trouve passionnant, mais j'arrive toujours pas à savoir si le film est complètement réussi.
Mohamed Rasoulov, est-ce que vous avez vu La Zone d'intérêt?
Bale, man, il filmo didam, il chance nadestam tu cinema bebinam.
Je l'ai vu, mais j'ai pas eu la chance de le voir dans une salle. Donc, je dois vraiment m'excuser auprès de Jonathan Glazer et les producteurs parce que j'ai vu une version piratée. J'étais encore en Iran.
Dostanam injiri bud ke Soheila be man gof ke vaqti be sahne.
C'est Soheila, l'actrice du film, quand on est arrivé à la scène de la chambre à coucher, elle m'a dit « Mais est-ce que tu as vu The Zone of Interest ?» parce qu'il y a une scène très proche de celle-ci. J'ai dit « Ben non, je ne l'ai pas vu, mais on va quand même tourner notre scène et je te promets de regarder après. » Et donc, on n'avait pas encore fini le tournage, mais moi, j'avais très peur d'avoir tourné une séquence qui existe dans un film qui vient de sortir. Et donc, je suis allée la voir et j'ai été extrêmement touchée par ce film-là, puisque je vis dans un système très proche de celui que vous décrivez. Et ce film m'a fait sentir une nouvelle fois l'importance de la responsabilité individuelle et la dimension terrifiante de l'ordinaire. J'ai repensé à Hannah Arendt et de la banalité du mal, que les horreurs humaines ne sont pas forcément produites par des monstres. Ce sont des individus lambda aux besoins très quotidiens qui peuvent causer de telles horreurs. J'ai fait un film qui s'appelle Le diable n'existe pas, qui traite de ce sujet-là, donc j'ai été d'autant plus touchée et bouleversé par la zone d'intérêt.
Je suis sensible à une chose, pardon, c'était à cette évocation. Moi, je n'ai pas vu le film de Glaser, qui est un réalisateur que j'adore. C'est un réalisateur de clips absolument mémorable, vraiment mémorable. Je suis très sensible, en fait, à cette esthétique qui... vous êtes obligé de le revoir. Il vous en manque toujours un bout. Ça, je crois que c'est le propre de ces gens qui sont à mi-chemin entre l'art contemporain et le cinéma narratif. Un Gaspard Noé, comme ça, ce sont des plasticiens, je crois, originellement. Puis le plus grand qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, David Lynch, bien sûr.
Mohamad Rasoulof, Les graines du figuier sauvage a été tourné dans la clandestinité. J'imagine que ça veut dire arriver sur le plateau en ayant absolument tout prévu. Mais est-ce qu'il peut y avoir quand même une part d'improvisation? Et puis il y a le souci de la sécurité aussi. Donc entre le fait de tout prévoir et le souci de la sécurité pour toute l'équipe, quelle est la place de la réalisation aussi? C'est un peu deux questions en une.
Avant tout, le souci de la sécurité faisait que je ne pouvais pas être présent sur le plateau. Il fallait que je dirige à distance, qui en soi est une expérience unique. Finalement, l'ère du numérique vous plonge dans des expérimentations inenvisageables il y a quelques années. Mais ça a aussi été la collaboration avec ces personnes-là, cette équipe-là, qui a rendu possible pour moi cette expérience d'être là sans être là. Et le plus dur, c'est de rester concentré, puisqu'aussitôt que la connexion était coupée, je craignais qu'il se soit fait arrêter, que tout se soit arrêté. Et donc, cet état de stress, d'incertitude permanente est assez incompatible avec ce dont vous avez besoin en tant que metteur en scène sur un tournage. Je saurais vraiment le décrire, mais c'est une responsabilité immense de travailler avec des individus tout en sachant que vous les mettez en danger à chaque instant. Donc il faut créer une espèce de discipline de fer à laquelle vous ne pouvez jamais vous tenir, parce que vous arrivez sur le plateau et on vous dit il y a une voiture à côté, on ne peut pas travailler. On ne sait pas qui sont ces gens, il y a un conducteur et on ne sait pas qui c'est. Et donc on attend que la voiture parte pour être sûr qu'il n'y a pas de danger.
C'est
l'imprévu sans cesse qui demande une équipe extrêmement patiente, extrêmement réactive, extrêmement créative et une complicité, une connivence constante. Et mon monteur qui se trouvait en Allemagne aussi, on travaillait à distance. Donc, il y a seulement un an, on n'avait pas encore terminé notre tournage. Et quand un soir comme ce soir, je regarde un an en arrière, je me dis que c'est les heures les plus sombres que j'ai connues dans mon expérience de cinéaste. Parce que parfois je me posais la question de est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça en vaut la peine? Et la réponse était toujours oui. La liberté justifie tout. Cette expérience de la liberté dépasse le cinéma. Il n'était plus question de cinéma.
Ariane, par rapport à votre sujet, c'est très rare au cinéma qu'un film colle de façon aussi près d'une actualité aussi récente et aussi brûlante. Je voulais savoir si, puisque vous parliez de responsabilité, si ça a été justement une responsabilité supplémentaire pour vous que cette histoire En Marche ait trouvé la juste distance pour pouvoir raconter cette histoire qui a lieu maintenant encore aujourd'hui.
فکر میکنم من همیشه قصه هامو از دور برم از تجربه های شخصیم استفاده میکنم و اون رو
فیلم که جی فیس سون توجور انسپیره دو مون اکسپریانس ایمیدیت دو سو کی چیزی از بیرون میاد از منتور و سی ورامن اون سورت دو فنومن کی می تراورس
من بر من یه فرآیند طبیعیه من هیچ هنرمندی
نیست این پروسسوس کی
ولی همه نسبت به صحنه بشه همه
کازی سپونتانه ارگانیک و
من
سان رسپونسابل de ce processus-là, rien de plus. Et donc, si le cinéma est là pour exprimer vos fantasmes, mon plus grand fantasme est la liberté. Donc, je ne peux marcher que dans ce sens-là.
Nicolas.
Non, j'étais intrigué parce que vous avez dit tout à l'heure, du moment où vous avez décidé d'arrêter la métaphore, c'est-à-dire que ce qui est très intéressant dans vos films, surtout vos deux derniers films qui sont Le Diable n'existe pas et Les graines du figuier sauvage, c'est que ce sont des films qui commencent dans la ville, dans quelque chose de claustrophobe, dans des intérieurs, parce que vous êtes obligé, en fait, vous êtes obligé de vous cacher pour tourner, et qui vont vers la nature et vers la liberté, les deux, dans le même mouvement, et vers les femmes d'ailleurs, qui prennent le pouvoir. Et ça, ça vous a été imposé par les contraintes. Vous en avez fait presque une forme esthétique et une forme poétique. Et je me demandais, est-ce que ce choix de ne plus être dans la métaphore, il est venu avant Le Diable ou avant Les Graines ?
ببینید شاید با دوباره توضیح بدم خوب نگفتم ببینید من فکر کردم که متافوری که زیر ترس
je n'ai pas été assez clair dans mes explications parce que je pense que la métaphore qui vous oblige qui vous fait par crainte par peur de choisir un discours plutôt qu'un autre était celle à laquelle je ne me voulais plus me soumettre mais toute expression artistique a une dimension ouverte à l'interprétation, une dimension subjective. Et donc, toute forme artistique est nécessairement métaphorique. Il y a nécessairement de la métaphore dans une expression artistique telle qu'elle soit. En l'occurrence, le mouvement des femmes est un mouvement en Iran que j'observe depuis des années et sur lequel je ne peux pas fermer mes yeux. Et c'est un mouvement qui n'est pas récent en Iran, qui a des racines très profondes dans la société iranienne. Et finalement, ce mouvement Femmes vie liberté n'est que la dernière étape de ce mouvement-là. Et ce mouvement a profondément inspiré la société iranienne. Les femmes iraniennes, les Iraniens, hommes ou femmes, se sont levés un jour et ont exprimé leurs besoins identitaires, leur façon de dire qu'ils n'allaient plus se laisser dicter leur façon de vivre, de s'habiller, de se comporter, de parler et de ne plus se soumettre à ce joug qui leur est imposé en permanence. Et donc choisir un langage qui puisse à la fois traiter de cette dimension extrêmement pragmatique, quotidienne, mais aussi avoir une dimension plus profonde, plus existentielle, plus humaine, était ce qui était en jeu ici dans le film.
Là, nous sommes à quelques heures de la cérémonie des Oscars. Vous l'abordez dans quel état d'esprit, l'un et l'autre, Jacques Audiard ?
Avec angoisse.
Et vous, Mohamed ?
Je vais être honnête avec vous, je suis très heureux que ce film existe déjà.
Nous aussi.
Maintenant, je vous propose de répondre aux questions du public. S'il y en a, un micro circule dans la salle. N'hésitez pas, je le répète, ce prix du meilleur film français et du meilleur film étranger est le vôtre. Oui, monsieur, bonjour.
Oui, bonsoir. Jean-Michel, je voulais m'adresser à monsieur Jacques Audiard, que j'admire depuis très longtemps. Et je vous dis franchement que je suis très fan de votre cinéma, mais celui-ci m'a complètement déconcerté. Alors, je m'attendais pas au côté musical, et c'est pourtant un sujet qui me tient à cœur, dans d'autres films et même dans des spectacles vivants. Mais je suis content de vous avoir entendu aujourd'hui, parce que vous m'avez amené à mieux comprendre votre film. C'est pas que je l'ai pas compris, c'est que je comprends mieux votre cheminement personnel et vos motivations. Ce qui fait que je suis encore plus admiratif de votre cinéma en général.
Vous êtes trop gentil. Mais
c'est vrai qu'au début... Vous avez bien fait de venir, Jacques
Audiard. Excusez-moi, pardon.
Vous avez bien fait de venir.
Oui. Continuez à nous surprendre, peut-être plus facilement, mais comme vous voulez, c'est vous qui êtes le metteur en scène.
Merci infiniment, monsieur.
Est-ce que quelqu'un souhaite prendre le micro pour poser une question à Jacques Audiard ou à Mohamed Rasoulof? Vraisemblablement non. Donc, Mohamed Rasoulof et Jacques Audiard, merci infiniment d'être venus sur la scène du Masque et la Plume depuis le théâtre de l'Alliance française pour parler cinéma avec les critiques. Et le prix du Masque, c'est celui du public de cette émission. Il n'est pas doté, mais ça n'empêche pas de le dire avec des fleurs. Donc, d'où l'arrivée de deux bouquets, si notre petite mise en scène est au point, dit-elle avec une petite inquiétude dans la voix. Merci beaucoup. Je tiens à remercier aussi Massoumel Haïdji pour la traduction des propos de Mohamed Rasoulof. Pendant que Jacques Audiard et Mohamed Rasoulof s'embrassent, se font un hug, comme on dit en français dans le texte. Merci à Gaël Michel, grâce à qui Emilia Pérez et Les Graines du Figuier Sauvage sont des films inter. La bande originale d'Emilia Pérez est un partenariat France Inter aussi. Et merci au trio qui a mené la danse avec moi, Nicolas Chaler, Ariane Allard, Jean-Marc Lalanne. La semaine prochaine, retour du débat critique avec l'actualité littéraire au programme. Guillaume Giraud est en mission pour le Seigneur chaque semaine en réalisant le Masque et la Plume. Aujourd'hui, c'était avec Delphine Baudet, Étienne Collin, Jean-Benoît Tétu et Laurie Sanchez. Merci à Ilinka Negulesco pour son soutien indéfectible et la préparation de cette émission spéciale. Merci à Nina Malray qui a comptabilisé vos votes. Et surtout, merci à vous, auditrices et auditeurs du Masque, sans qui ce prix n'existerait pas. On se retrouve la semaine prochaine pour une heure de liberté critique sur France Inter. Évidemment.